Je fais moins si vous ne faites pas ça. Voilà, je chuchote mes doigts. On va beaucoup parler de mémoire aujourd'hui. Et en exergue de cette conférence qui vient d'un travail que j'ai fait sur cette superbe phrase de Lévinas qui disait que le peuple juif était entre le déjà et l'encore. Et c'est tout à fait le thème de cette conférence de ce soir. J'avais fait ce travail déjà l'année dernière que j'ai complété pour ce soir. Et je souhaite, moi aussi, vous faire des citations de deux juifs que vous connaissez bien par la littérature et par la musique. Patrick Modiano. Je n'avais que 20 ans, mais ma mémoire précédait ma naissance. Et Gainsbourg. Chaque jour de mon existence, j'ai eu une vibration prémonitoire de mon futur. Et vous devinez bien que ce soir, je vais surtout vous parler de temporalité, du rapport du peuple juif avec le temps. Comme je dirais tout à l'heure à propos du travail d'Avraham Yehoshua Heschel, le peuple juif, peuple du temps. N'est pas le peuple de l'espace, mais le peuple du temps. Donc j'aborderai d'abord le premier sujet, qui est celui de la temporalité. Le deuxième, ce sera, je parlerai bien évidemment du déjà, du travail sur la mémoire, et ensuite du futur. Et puis j'en terminerai bien évidemment sur quelques considérations sur ce que nous avons à faire de cette vie. Et vous savez que je commence toujours mes propos en essayant de tordre le cou à quelques vieilles lunes, à quelques idées reçues, à propos des définitions du peuple juif. On appelle toujours le peuple juif peuple du livre. Peuple juif, c'est pas le peuple du livre. Parce que d'abord, le livre, c'est une véritable bibliothèque, hein, comme Blanchot le disait, c'est une bibliothèque absolument infinie. Et puis, c'est surtout le peuple de l'interprétation du livre, et pas celui du livre. De la même manière, une autre définition qui est absolument insupportable, c'est le peuple à la nuque raide, comme si le peuple juif avait cette culpabilité extraordinaire de ne pas avoir reconnu le Messie dans le Christ et qu'on le lui portait à charge. Le peuple à la nuque raide, nous le sommes parce que tout simplement, là, nous ne procédons que devant celui qui s'est révélé à nous au mont Sinaï. Et voilà. Et surtout, et j'en viens à mon propos, peuple de la mémoire. Alors, s'il s'agit de la mémoire d'un passé révolu, c'est quand même une définition qui est un peu réductrice et tout à fait méprisante. S'il s'agit d'un peuple fossile, qui est un artefact de l'histoire, une scorie, et qu'on conserve un peu comme un animal de laboratoire, comme preuve de laboratoire, c'est parfaitement déshumanisant. Mais si cette mémoire, c'est le lieu où se rejoignent histoire et tradition, et si par le fait que depuis 4000 ans, chaque soir de Pâques, nous racontons la sortie d'Égypte. Un noyau de vérité originel est au centre de ce récit, que certains, les scientifiques, qualifient de mythe fondateur. Car dans ce récit, l'émotionnel et l'existentiel se conjuguent. La mémoire juive, c'est le disque dur où s'inscrivent les événements et leur vécu identitaire. Et l'on peut alors dire, c'est ce que je citais tout à l'heure avec Avraham Yehoshua Heschel, que le peuple juif est celui du temps et non celui de l'espace. De la même manière, pour Avraham Yehoshua Heschel, la Bible conçoit la relation entre le Créateur et l'univers comme deux états différents par essence et sans commune mesure. Elle pose la création comme événement et non comme processus. L'idée même de création transcende la causalité. Le monde ne se conçoit pas comme issu de catégories tirées de la philosophie, de la nature, mais comme nature rendue possible par une action de la liberté divine. La Bible ne s'occupe pas de l'être en tant que tel, mais de l'être en tant que créé. Son propos, donc, n'est pas ontologique ou métaphysique, mais historique et méta-historique. C'est aussi un grand élément que nous apporte Heschel, cette notion de méta-histoire sur laquelle on reviendra tout à l'heure. La Bible, elle traite du temps. La philosophie, elle s'élabore à partir de concepts, la religion juive à partir d'intuitions et à partir d'interventions proprement temporelles. Idées et événements ne sont pas inséparables. Dieu parle au peuple d'Israël, non pas par des faits de nature, liés aux lieux et aux choses, mais par des événements. L'alliance, la promesse, la libération de l'esclavage, la révélation de la Torah, et les quatre moments fondamentaux de la rencontre, c'est-à-dire qui sont la justice, la miséricorde, la relation essentielle entre Dieu et l'homme et l'alliance irrévocable. Dans cette conception juive de l'histoire, l'important n'est pas celle de peuple élu, mais celle de temps élu, de moment juste. Et ça, c'est une notion, justement, sur laquelle revient beaucoup Marc Alain Wachlin. C'est une notion de rencontre. La Bible nous parle de rencontre. Et ça n'est pas par hasard que sur les six ordres du Talmud, l'un d'entre eux s'appelle Moed, s'appelle la rencontre. Et nous disons à Pessah cette phrase essentielle, « N'était ce jour-là, et tout découle de là. » S'il est absurde pour les philosophes de subordonner l'histoire à des événements obscurs survenus en Palestine, il est pour les Juifs insuffisant de subordonner l'histoire à des lois abstraites. La norme juive, c'est celle d'une réalité où l'histoire est comprise comme réalisation de la vérité. L'invention juive, c'est que le temps est chargé de sens à l'extrême et que l'histoire humaine, loin d'être absurde, est un drame auquel Dieu et l'homme prennent part et dans lequel nous entendons aussi bien la parole divine que le silence de Dieu. Pour André Néer, et il faut revenir à ses travaux, l'histoire n'est pas accidentelle mais constitutive de l'essence juive. Elle accumule en elle les événements du passé et les promesses d'événements à venir. Peuple prophète, le peuple juif est, comme le dit Ernest Bloch, au poste d'aiguillage de l'histoire et de l'utopie entre le déjà vécu et l'espérance, entre advenu et avenir. Alors, l'irruption des nouveaux historiens ramène à la querelle des événementalistes, vous savez, les structuralistes. Alors, faut-il avoir une lecture subjective ou objective de l'histoire ? Là où les spécialistes, linguistes, sémioticiens, historiens des civilisations nous proposent une vision en dehors du judaïsme, extérieur au judaïsme, nous, nous proposons une lecture des fidèles qui est faite du dedans et qui est nécessaire à la précédente et complémentaire de celle-ci, car elle est simultanément temporelle et extratemporelle, spatiale et métaspatiale, physique et métaphysique. Un juif ne naît pas le jour de sa naissance. Il naît avec Adam, il naît avec Moïse, il naît avec les révélations d'Abraham, mais aussi avec la destruction du temple. Il porte des événements en lui qu'il rappelle de façon permanente. Et en particulier, souvenez-vous des prières du Shabbat quand nous disons « Zecher le Maaseh Bereshit »« Souviens-toi de l'action de la création » ou « Zecher le Tziat Mitzrayim »« Souviens-toi de la sortie d'Égypte. » Voilà ce que je voulais dire sur cette problématique du rapport du peuple juif au temps. C'est cette première partie que je termine pour passer ensuite à cette notion de problématique de la mémoire. Le déjà dont parlait Lévinas. Pour l'histoire chrétienne et laïque et européenne, l'histoire juive, elle est oblitérée en 136 après Jésus-Christ, avec la destruction la dernière grande révolte. Le temple a été détruit une deuxième fois, la dernière grande révolte. C'est d'ailleurs étonnant de penser que l'histoire, pendant très longtemps, l'histoire des peuples que l'Europe a entre guillemets civilisé, qu'elle a occupé, qu'elle a colonisé, et de la même manière oblitérée. Hein, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a occulté très longtemps l'histoire des Amériques, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de tous ces pays, l'histoire des Asie qui ont été colonisés. Et pourtant, cette histoire factuelle a toujours existé. Vous savez que la diaspora juive existait 8 siècles avant la destruction du Temple, 8 siècles avant la vie du Christ. 80% des Juifs n'étaient déjà plus sur la terre de Palestine. Et ces gens-là, partout où ils étaient, écrivaient leur histoire. Et il faut citer le Seder Olam du Talmud, Flavius, dont je reparlerai tout à l'heure, Flavius Joseph, Benjamin de Tudel, Abraham Farisol, Abraham Zacuto, Yosef HaKohen, dont je reparlerai également tout à l'heure, Gedalia Ibn Yahya, Samuel Uskwe, Azaria Beir Rossi, David Gans, et une femme, Glückel de Hameln. Et au 19e, l'histoire juive, elle se construit comme une science. C'est le Wissenschaft des Judaismus des Allemands, Jost, Zuns, Gans, Simon Dubnow. Globalement, cette histoire, elle est tendue vers la survie, vers l'existence. Et cette pensée historique se développe et peut se simplifier dans les deux derniers mots qui terminent l'étoile de la rédemption de Rosenzweig, que vous avez tous lu, c'est Ins Leben, vers la vie. Donc, histoire factuelle, mais avec une connotation extrêmement forte de cette notion de survie et de vie. Toujours aujourd'hui, le juif est engagé existentiellement dans la continuité de cette histoire et son universalité. Concernant, bien, essayant d'allier bien sûr le ciel et la terre, histoire et métahistoire, je l'ai dit, transcendance et immanence. Je souligne cette relation, cette conjonction qu'est le « et », parce que, au sens des penseurs juifs, le « et », ça veut dire « et encore », « et ensuite », »,« et de plus », »,« et pourtant », »,« et malgré tout », »,« et contre toute apparence », »,« et quoi qu'il en soit ». Transcendance et pourtant immanence. La transcendance de Dieu pour jeter sur l'abîme le séparant de l'homme, alliance qui subvertit la distance, la brisure et garantit le rapprochement et la participation. Cette éthique universelle existentielle transcende à son tour le particularisme juif. Selon Franz Rosenzweig, si la révélation ne nous est que partielle, la création et la rédemption engagent le judaïsme dans la réalisation de sa propre destinée. Zachor, souviens-toi, c'est un thème essentiel dans la tradition juive. Prescription fondamentale du judaïsme, souviens-toi. Mais est-ce que nous sommes prisonniers de cette mémoire? Et n'existons-nous, nous les Juifs, que pour cela? Donc il y a une discussion à faire. Pour Vital Naquet, qui en a beaucoup traité dans Le Juif, la mémoire et le présent, il observe justement, à propos de Flavius Joseph, le fameux suicide des Zélotes à Massada. C'est 960 personnes qui vont mourir à Massada. Et il montre bien que, quelque part, cette espèce de fixation qu'on fait sur le suicide collectif n'a rien d'historique. Qu'elle représente une tentation, qui est celle tout simplement d'une fin suicidaire, d'une fin apocalyptique, qui témoigne bien de l'être au monde de ces Zélotes, les fameux Zélotes, dont on dit, Sicaire, dont on dit qu'ils ont tué pendant le siège de Jérusalem beaucoup plus de Juifs qu'ils n'ont tué de Romains. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il est inquiétant de voir ce suicide, dont les historiens commencent à contester la réalité, présenté un peu en exergue de ce qu'on pourrait appeler des valeurs, et surtout des valeurs vivant dans l'État d'Israël actuel. C'est une remarque que fait Vital Naquet qui est fort intéressante. Mais que faisait déjà Flavius Joseph lui-même? Par exemple, à la même époque, il y avait quelqu'un qui s'était échappé et qui, avec l'autorisation des Romains, commençait à créer les premières écoles rabbiniques et la rédaction du Talmud, c'est Yohanan ben Zakkai. Eh bien, cette école-là, celle du Talmud, elle préconisait l'apolitisme. Pour elle, la voie adoptée par les Zélotes sur Massada était une voie absolument sans issue et non conforme à la tradition juive. Quelque temps après, il y a un texte qu'on appelle le Yossipon qui parle également du siège de Massada sans jamais faire mention du suicide collectif. C'est une longue déploration sur la chute de Jérusalem et la chute du peuple juif. On voit bien cette opposition de cette fin sauvage des Zélotes à ce qui va devenir la norme de la vie juive, qui est une acculturation d'une majorité des Juifs aux conquérants, compromis avec le vainqueur, qui se définit en termes de survie. Il faut survivre. Même thématique, vous vous en souvenez, dans les textes de Daniel. Daniel, c'est l'archétype du juif de la diaspora qui va composer. Et quand il va, il va y avoir l'affaire Balthazar, il faut traduire ce que veut dire Balthazar en hébreu. C'est-à-dire, c'est celui qui sauve le roi. Donc c'est quelqu'un qui non seulement survit dans l'univers où il est déporté, mais en même temps rend service à l'État. Et il représente tout à fait ces juifs qui vont attendre la fin des empires pour obtenir leur libération. Donc première critique que je formule à l'égard d'une certaine forme de mémoire juive. Deuxième critique, la philosophie du désespoir, qui est complètement inspirée par ce texte étonnant d'un historien du Moyen-Âge que j'ai cité tout à l'heure, Yosef HaKohen, qui écrit Emek HaBacha, la vallée de larmes, où il décrit vraiment la destruction des communautés juives d'Europe par les croisés, par les chrétiens, et ville après ville, il décrit le martyr de ces communautés sous la sauvagerie de des gens qui partent vers les croisades. Et la discussion, justement, qui a été faite également par Naquet, par Vital Naquet et par Michel Nick, c'est est-ce qu'il faut borner notre mémoire
à cette célébration de cette, d'une, ce qu'on pourrait appeler une culture mémorielle des massacres. En fait, la question, et je vais vous choquer, est-ce que la Shoah c'est un fonds de commerce? Est-ce que nous nous identifions à jamais à la mémoire? C'est ce que Méchonic, André Méchonic que vous connaissez bien, appelle merveilleusement, il appelle ça le juif rétrospectif. Et il dit bien que la lutte univoque contre le révisionnisme, contre l'antisémitisme, identifie le juif à son martyr. Ce qui correspond bien à quelqu'un que vous avez entendu un jour dire, et ce quelqu'un a bien regretté ce qu'il avait dit, que le juif était l'agneau pascal qui avait été sacrifié. Il comparait un peu le martyr du peuple juif. Dieu merci, ce grand, cette personnalité éminente de l'Église est revenue sur ce propos, en sachant bien ce que, en quoi ça pouvait choquer les juifs qui n'ont en fait aucune vocation particulière au martyr. Et il faut bien distinguer ce culte de l'Holocauste dont je parle, au devoir de mémoire, terme merveilleux inventé par Primo Levi, parce que si on tourne son visage en permanence vers un passé passivement revécu, on est à l'opposé du juif qui vit son histoire et qui la vit de façon libératrice et de façon assumée et de façon prospective. Comme le dit merveilleusement le même Méchonic, le juif est sa propre utopie. Et il n'y a pas de judaïsme sans utopie. Méchonic dit encore que le signifiant, qu'il soit rythme, signe, langage et utopie, c'est-à-dire renouvellement de la condition humaine et dans la perspective de la vie. L'utopie juive humanise l'éthique. Elle restaure les rapports entre le langage, la politique et l'éthique. Elle sacralise le monde. Elle concilie les contraires. Elle réalise l'unité. Elle refuse le dualisme et de se laisser enfermer dans des formules toutes faites et dans des systèmes tout faits. J'ai noté cette belle phrase de Léo Baeck, qui est un penseur sur lequel il faudrait un jour revenir. Ne jamais faire allégeance aux idées du temps et du pouvoir en place et toujours suivre sa voie propre. C'est comme ça qu'il définit le rapport des juifs à l'histoire. L'utopie juive, c'est de comprendre le monde, et je cite la Maïmonide, je le reciterai tout à l'heure, dans la bouche de quelqu'un d'autre, les portes de l'interprétation ne sont jamais closes. Donc la mémoire juive, elle revisite donc les événements historiques de façon existentielle. C'est ce que je voulais vous dire. Et nous sommes les agents actifs de notre destinée, et cette mémoire, elle nous propose un saut qualitatif. Vous vous souvenez du mot de Pessah, la Pâque juive. Pessah, ça vient du verbe Itzor, le saut, ce saut qualitatif qui nous permet de sauter, ce saut ontologique, du déjà à l'encore. Et j'aime bien, parce que ça je l'ai trouvé chez Marc Adamoclin, cette phrase de Narfan de Brassaf quand il dit « Souviens-toi de ton futur ». Ça fait la transition à ce que je voulais évoquer en matière de futur du peuple juif. Bien évidemment, nous allons parler de cette idée, cette dimension juive de l'espérance, cette dimension juive du messianisme. Alors cette dimension, elle ne naît pas par hasard. Bien qu'elle soit tout à fait hétérogène, comme on va le voir tout à l'heure, elle est façonnée par l'expérience du malheur, de la dispersion, de l'exil, de la persécution. Elle exprime l'insatisfaction d'une existence forcée au milieu des nations. Elle se veut également une réponse à l'absurdité apparente du monde et à l'apparente absence de Dieu, à l'apparent silence de Dieu. Elle se voit aussi moyen d'accélérer la fin des temps. Et vous avez tous en mémoire ces chassidim de New York qui disent « We want Mashiach now ». Aujourd'hui même, on veut le Messie. C'est une espérance de restauration nationale et politique. C'est une espérance de dignité retrouvée et se base essentiellement sur le retour des exilés. Vous vous souvenez du grand poète qui s'appelait Yehuda Halevi, il disait « Mon corps est en Occident, mon cœur est en Orient ». Et cet homme a été traduit par un grand poète allemand qui s'appelle Heinrich Heine, qui a beaucoup souffert des origines juives. Et lisant Yehuda Halevi, Heinrich Heine disait que ça lui faisait naître un désir de Jérusalem. Comme le montre bien Gershom Scholem dans sa magnifique étude, que je vous conseille vraiment de lire et de relire sur la mystique juive, il montre qu'à chaque menace existentielle, à chaque risque de disparition, à chaque rupture historique, hein, le judaïsme se tourne vers la mystique et vers, dans cette échappée mystique, hein, l'espérance essentielle, c'est la restauration messianique, de retour et de restauration complète du peuple juif sur cette terre. Alors, pourquoi j'ai parlé d'hétérogène? Vous savez que cette conception juive, cette théorie juive du messianisme, elle va naître à peu près à l'époque du Second Temple. Et elle évoque l'idée qu'un oint, Mashiach, celui qui a été oint, descendant de la lignée de David, va ramener les exilés, va restaurer le temple. Et il va surtout apporter la paix et la justice, non seulement sur la terre d'Israël, mais également pour toute l'humanité. Oula, c'est ce que ça figure. Voilà. Et cette évocation, elle est largement évoquée dans les prophéties chez Isaïe, chez Zacharie, chez Daniel, c'est la célèbre mention du Fils de l'homme. Et on le voit dans cette tradition-là, déjà double, roi temporel, roi eschatologique. Et par la suite, les versions vont extrêmement varier. Il n'y a pas de version fixe. Par exemple, à Qumran, toutes les visions d'Apocalypse ou messianiques associeront le grand prêtre avec la lignée de David. Dans la vision rabbinique, et c'est une tragédie pour le peuple juif, Rabbi Akiva va identifier le Messie au révolté, à Bar Korba, et on devine ce qui va s'en suivre. Mais par la suite, ou même plutôt auparavant, c'est à Cyrus qu'on faisait allusion en matière de comme évocateur et prémise étant messianique. À l'époque de Zerubbabel, il y a le conflit, 6e, 7e siècle, il y a le conflit entre les Perses et les Byzantins, et c'est là qu'apparaît cette notion de deux messies, un fils de Joseph qui mourra au combat, et également celui qui sera le fils de David. Et ces avatars du messianisme vont prendre des dimensions très diverses jusqu'à l'époque contemporaine, où on voit disparaître dans chez les penseurs juifs la notion de messie individuel au profit du salut collectif. Alors, qu'en ont fait nos amis chrétiens de ce messianisme? Bien évidemment, et ce n'est pas le propos de ce soir, la lecture des prophètes, pour eux, est à lire dans la perspective de la venue du Christ. C'est tout à fait évident. Ce qui est tout à fait acceptable, hein. Moi, j'ai une telle proximité avec le rabbin Jésus que je ne vois rien dans ce qu'il a pu dire et faire qui me gêne quelque part. Je suis un peu plus gêné par les contorsions généalogiques qu'on impose à son ascendance pour en faire effectivement un issue de la lignée de David. Par contre, je souffre authentiquement quand je relis quand même l'histoire des grandes disputes du Moyen-Âge qui étaient entièrement basées sur l'accusation faite aux Juifs de ne pas reconnaître Jésus comme Messie. Et c'est ainsi qu'il faut lire la grande dispute de Barcelone entre Nachmanide et Paul Christiani, parce que naturellement on choisit toujours des Juifs convertis pour s'adresser aux rabbins dans ces cas-là. Et également, ce qui nous concerne directement, c'est à Paris, 1240, juste avant que le brave Saint-Louis fasse brûler 24 charrettes de Talmud, il y a cette disputation extraordinaire entre Nicolas Donin, juif converti, hein, Donin Nathan, et le rabbi Yehiel, qui aboutira bien sûr au bannissement des Juifs de France, à leur conversion de force, et pour quelques-uns à leur détermination, à leur extermination. Donc vous voyez cette approche chrétienne un peu de l'idée messianique nous rapproche de quelque chose qu'on connaît bien en matière juive, c'est tout simplement ce qu'on appelle nous les faux messies, parce que ces espérances ont été trompées maintes fois. Et c'est ainsi qu'à Bagdad au XIIe siècle, il y avait un certain David Al-Roi qui s'est prétendu messie. Il y a eu les mêmes personnages qui se sont révélés au Yémen, au Maroc, à Avila en 1295, et puis les trois célèbres faux messiques dont je vous conseille de lire l'histoire parce qu'elle est tout à fait épique, hein. Salomon Molko par exemple en Italie au début du 15e siècle, par la suite Chabtaï Tzvi, le soleil noir de Smyrne, et puis lui qui se convertira pour sauver sa vie à l'islam, et bien sûr Jacob Frank, dans lequel les mythes d'Akdim, les orthodoxes, ont voulu reconnaître les prémices du chassidisme. La grande accusation qui était faite au Baal Shem Tov et à ses élèves, c'était qu'ils étaient des avatars ultimes de la pensée impie de Jacob Frank. Ces gens-là ont eu des descendants. Et pour la petite histoire, sachez que dans le mouvement jeune turc, la révolution d'Atatürk, on parle beaucoup de la Turquie actuellement. Eh bien, il y avait une secte qu'on appelait les Dumnes, qui étaient tout simplement les derniers descendants de la pensée de Chataïtsi. Et de la même manière, dans la charrette qui va emmener Robespierre et les montagnards à l'échafaud, il y a deux hommes qui s'appellent Frey, l'un et l'autre, et qui sont les derniers disciples de Jacob Frank. Donc vous voyez où peut amener cette idée messianique introduite dans la politique. L'un côté la révolution turque, l'autre côté... Mais c'est pas la seule, parce que personnellement, dans cette poussée extraordinaire intellectuelle vers l'avenir, dans cette sécularisation de l'idée messianique, moi je note simplement qu'une grande partie des utopies du 19e se trouve. Freud et la psychanalyse, c'est pour moi une forme de cette utopie en marche. Korczak et la pédopsychiatrie, par exemple, les langues. Eliyahu ben Yehuda ressuscite une langue morte, l'hébreu. Zamenhof en invente une autre, l'espéranto. Hein. Et si ce ne sont pas des idées de type messianique, la sociologie de Durkheim, quelque part, représente aussi une expansion extraordinaire, un progrès scientifique extraordinaire, dans lequel la part de l'utopie messianique existe. Et pour en revenir à ce qui nous fait vivre aujourd'hui, le sionisme, c'est d'abord, comme le disait mon ami Duvernois, le sionisme de Dieu. Et cette idée sioniste est la seule utopie du 19e qui a été couronnée de succès, qui vit encore maintenant sous une forme tout à fait différente. Mais de la même manière, l'investissement de certains penseurs dans le marxisme, par exemple, cette espèce d'utopie extraordinaire qui devait libérer les peuples et qui a terminé de façon tragique, que vous savez, a également été porté par un grand nombre de juifs qui substituaient à leur tradition religieuse une expansion, une sécularisation de l'idée messianique. Une autre qui est moins connue, c'est cette espèce de tentative de réforme du judaïsme populaire à religieuse qu'on appelait le Bund, qui est un mouvement social né dans les masses juives prolétaires pauvres de Russie et de Pologne, pour lesquelles l'avenir était le socialisme laïque et le yiddish, et ces gens ont été littéralement massacrés par Staline, bien avant que Hitler ne finisse le travail. On peut éventuellement évoquer un grand nombre de gens qui ont pensé le libéralisme sauvage, et pour lesquels, effectivement, ça représente une révolution qu'on peut apparenter à ces utopies sécularisées, qui sont des avatars ultimes, pour ma part, du messianisme. Alors, le messianisme, est-ce que c'est un humanisme? Est-ce que c'est une forme de résilience juive? Ou est-ce que plutôt, c'est dans la sphère intellectuelle qu'on ne va pas rechercher cette évolution un peu de la pensée messianique? Et là encore, je crois qu'il faut revenir à la grande école de pensée allemande. Cette pensée juive allemande va naître à la fin du 19e, à l'époque du désenchantement du monde, à l'époque de la mort de Dieu, et entre guillemets bien évidemment, et cette faillite de la pensée issue des Lumières. Pourquoi cette faillite? Parce qu'elle est confrontée, cette pensée, cet idéalisme kantien, il va être confronté bien évidemment à une montée des périls, les nationalismes, les guerres de libération, l'antisémitisme féroce, et puis ces derniers avatars, dont le nazisme et la persécution des juifs, qui montrent bien évidemment ces limites de l'idéalisme allemand. Et ce sont tous ces gens qui vont faire une espèce d'aggiornamento, d'un renouvellement un petit peu de la pensée juive. Ce renouvellement, il va être classique chez Hermann Cohen. Il va se faire à travers l'histoire de la philosophie pour Léo Strauss, mais il va être entièrement reconstruit à partir des fondamentaux, par Rosenzweig, par Buber, par Hans Jonas et par Levinas. Et cette approche va être totalement déchirée chez Walter Benjamin. Il faut que vous lisiez absolument les lettres de Benjamin à Gershom Scholem, qui lui avait déjà choisi de s'installer en Israël. Vous savez que ce qui a amené Scholem à partir en Israël, c'est un Noël où il a vu arriver à la maison, en plein milieu de la fête de Hanouka, un sapin de Noël. Il s'est dit, vraiment, alors là je ne peux plus rester, c'est plus possible. C'est plus possible. Cette confusion qui est faite par des parents assimilés qui ne savent même plus quelle est la nature du judaïsme, avec le mirvan, je ne peux pas supporter, il y a quand même d'autres choses dans le judaïsme que je veux garder. Et il faut lire cette conférence. Et j'ai trouvé cette très belle phrase dans une de ses lettres de Walter Benjamin qui observe la fragilité de la civilisation de la beauté éclairée par la raison de Goethe et de Kant. Vous voyez cette grande déploration de Benjamin pour sa propre formation. Et ces gens-là substituent, Benjamin substitue à cette philosophie qu'il avait apprise, une autre philosophie, c'est celle qui va chercher à évaluer les raisons de la fin des temps. Et là encore, c'est une lecture que je recommande, c'est l'extraordinaire bouquin de Pierre Bourette qui s'appelle « Les témoins du futur ». Ces témoins du futur, c'est tout simplement, il le tire d'un texte même de Walter Benjamin à Cholène, d'Allemagne à Jérusalem. Et ce texte, Benjamin propose une équation à propos du messianisme. Il propose un tribunal où les humains mettent en accusation Dieu sur la non-venue du Messie. Et des témoins arrivent, qui viennent dire leur rappeler leur témoignage et qui disparaissent. Et pour Bourette, tous ces gens-là, de Buber à Jonas, ce sont effectivement les témoins du futur. Ce sont des gens qui refusent la notion de fin de l'histoire. Ce sont des gens qui observent la présence du passé, même lointain, et assument un futur inaccompli. Comme le dit Gershom Scholem, ce serait la fin de l'humanité si l'on, et je rappelle ce que disait Maïmonide, puisqu'il le rappelle, si l'on cessait de considérer le monde comme une énigme. C'est donc le refus d'un judaïsme pétrifié, embaumé dans le ritualisme, et par l'historiographie bien pensante, qui suscite la révolte de ses penseurs. Et j'en veux pour thème un texte aussi que je vous recommande quand vous aurez le temps, qui est cette magnifique lettre au père de Franz Kafka, où Franz Kafka, qui est très très loin du judaïsme pratique, bien qu'il le connaisse parfaitement bien, accuse son père, en somme, dans une lettre qu'il ne lui enverra jamais, d'être l'image même, le paradigme du judaïsme allemand qui a totalement oublié ses origines. Et de la même manière, Kafka écrit un texte absolument magnifique sur la tour de Babel. Il faut relire ce texte juif de Kafka. Et Kafka décrit une humanité dans une logique de mort et d'autodestruction du fait d'un dérèglement du rapport au temps, et spécialement dans le rapport à l'avenir. Il décrit une humanité qui est maîtresse d'un temps illimité, et cette humanité perd le sens de l'attente, de l'espérance, de la patience ou de l'impatience. Tout est absorbé par l'indifférence, et le futur est privé de sa fonction essentielle, qui est tout simplement le renouvellement et la recréation de ce monde. J'ai trouvé aussi cette belle définition chez Stefan Moses, le temps juif est contraction du temps physique et extension du temps psychique. C'est un thème qu'il va développer dans un autre livre que je vous recommande qui s'appelle « L'ange de l'histoire » qui raconte que l'histoire juive elle est faite d'accidents pendant lesquels des anges viennent chanter un hymne à Dieu et sont sans arrêt renouvelés. C'est une, comme il le dit, c'est une voix qui passe et qui s'enfuit et qui, pour Gershom Scholem qui a commenté ce texte, il dit que c'est l'apocalypse au cœur de l'histoire. C'est une utopie qui peut se réaliser dès maintenant. Cette quête du signifiant, du sens, rejoint cette parole qui a été donnée à Abraham, Lech Lecha, qu'on peut traduire de la façon suivante, ou va et va, redondance. Le voyage, commence son voyage, commence le chemin, ou alors va vers toi, et essaye de trouver ta vérité en toi. Et cette phrase, chaque fois que je la prononce, que je la lis dans le texte public, me renvoie à un poète que j'adore, sur lequel j'ai fait une conférence en ligne, qui est Benjamin Fondane. Et Benjamin Fondane, qui mourra à Auschwitz, comme vous le savez, grand poète roumain de l'expression française, a fait un texte sur Ulysse où il dit, Ulysse, hein, là encore, paradigme du voyageur, il dit, juif, tu étais juif, Ulysse. Alors entre le déjà et l'encore, entre la mémoire et l'espérance, que nous reste-t-il ? Cette belle pensée, là encore de Walter Benjamin, l'idée du temps de l'aujourd'hui. C'est-à-dire cette idée que cette vie est à vivre aujourd'hui avec les nôtres et avec les conditions actuelles. Ce temps de l'aujourd'hui, c'est une actualisation du temps historique. Et ça nous renvoie, et j'en terminerai avec cela, à cette belle définition de Rabbin Bernheim du judaïsme, qui dit que le judaïsme est une éthique en marche. Où il reprend quelque chose d'un juif célèbre, bien que bien peu religieux, que c'était Bergson, qui disait « il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée ». Où il rappelle, sans le savoir, ce texte du Talmud et qui dit « grande est la valeur qui se termine dans l'action ». Donc qu'est-ce que c'est que cette action? Qu'est-ce que c'est que ce monde éthique que propose le judaïsme entre le « déjà » et « l'encore » C'est tout simplement, et là encore je rappelle que le texte biblique, c'est pas un, ça c'est Wachnin qui nous l'a appris, c'est pas un code religieux, c'est pas un code juridique, c'est un code du rapport à l'autre homme, c'est un code éthique, c'est une façon de vivre aujourd'hui entouré des siens. Et c'est aussi une façon de réparer ce monde, c'est une façon de faire ce fameux « tikkun olam ». Cette réparation du monde qui permettra la fin des temps. Et j'en terminerai simplement, comme je termine mes prières, quand j'ai le temps de les dire, de mettre mes tefillines le matin ou à la synagogue, par ce beau texte qui dit « Allez-nous le Shabbat, la Tanakol », c'est que nous ne sommes pas comme les autres peuples. Et ce texte, parce que notre devoir n'est pas celui des autres peuples. Notre mémoire, notre histoire n'est pas celle des autres peuples. Et ce qu'on a reçu, c'est pas ce qu'on reçoit. Donc nous sommes obligés à quelque chose. Vous savez, Barbarin disait dans ses entretiens avec Wachnin, le meilleur mot pour exprimer la notion de commandement, de mitzvah, c'est l'obligation, au sens où les Portugais l'emploient, quand ils disent obligado, je suis votre débiteur, nous sommes débiteurs de cela. Allez, nous, le Shabéar nous dit que nous sommes débiteurs de quelque chose, et que ce quelque chose doit irradier dans notre vie tous les jours. Et cette prière se termine justement par cette espérance-là. Bayom Aou, Yadonai Echad ou Shomo Echad. Et en ces temps-là, Dieu sera un, et son nom sera un. Voilà cette espèce d'espérance de l'unité que je voulais porter ce soir vers vous.
Merci beaucoup, Albert. C'est dense. C'est très dense. C'est très dense, il faut l'écouter plusieurs fois. Très souvent, maintenant, je dis ça au micro, mais c'est tellement vrai. C'est tellement dense, c'est tellement profond, c'est tellement riche. Il faut vraiment écouter plusieurs fois ce thème. En plus, c'est actif, c'est rapide. On va poser des questions, j'espère, qui vont poser tout ce que tu as dit. Par cette recherche, par l'évolution, par peut-être ce qu'il y a de... auquel moi, en tout cas, j'étais très sensible, c'est tout ce que tu viens d'exprimer à la fin, et qui est un résumé extraordinaire, enfin un résumé, on ne peut pas dire un résumé. Et, oui, extraordinaire de ce que tu veux dire, c'est l'action. L'action, l'éthique du peuple juif. Mais aussi tout ce qui touche à la mémoire, effectivement, et du passé, et qu'il est interdit de vieillir. Et effectivement, ce passé à la fois pesant, mais à la fois tellement riche. Et toi, je trouve que tu enlèves le poids. Tu dis, allez, on va de l'avant. Et la vie est là. Et tout à l'heure, j'ai lu un bouquin incroyable d'une toute jeune femme, descendante de famille déportée. Et le livre s'appelle La réparation. Et c'est vraiment un peu ce que tu touches, c'est-à-dire il faut aller vraiment vers la vie. C'est la vie. Et elle est là parce que deux femmes ont décidé à ce moment-là que ça serait la vie et non pas la mort. Alors on retrouve toujours cette très très belle phrase, hein, tu choisiras, j'ai mis devant toi, j'ai placé devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Voilà. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait du développement sur tout ce que tu as pu nous dire, beaucoup plus de développement encore, peut-être à travers justement vos questions qui sont posées à Albert.
Oui, ça marche. Le messianisme, la pensée messianique. Voilà, ça y est. On a l'impression que la crise de cette pensée messianique, la crise des utopies, c'est cette fracture entre la pensée et l'action, les valeurs et l'action. Alors, je voudrais revenir sur cette idée de chute et de brisure. Parce qu'on a plusieurs mythes à ce sujet, plusieurs légendes, plusieurs allégories. Sur cette brisure, bon, des allégories parfois kabbalistiques, qui expliquerait cette grande difficulté du passage à l'action. Parce qu'à chaque fois, on se fédère tous autour de l'éthique, des valeurs. Et puis, on se dit, bon, maintenant il faut agir. Et quand on passe à l'action, on est confronté à l'adversité, aux difficultés, aux échecs. De l'action. Comme si la fragilité de toutes ces pensées messianiques, c'est quand on commence à passer à l'action. Donc qu'en penses-tu, puisque c'est récurrent, ça fait des siècles et des siècles, à chaque génération, on a des hommes et des femmes portés par un nouveau projet collectif qui devrait aboutir à l'épanouissement, au bonheur, au respect, à la justice, et à chaque fois, ces actions sont ou déviés, ou brisés, ou inachevés, ou voilà. On a toujours ce sentiment d'inachèvement. Peux-tu nous donner quelques pistes sur cette crise des utopies ?
D'abord, moi je pense qu'il n'y a pas de crise des utopies, puisqu'on continue à fabriquer de l'utopie, et Dieu merci, hein, il faut qu'on continue à fabriquer de l'utopie, c'est un peu la seule chose qui nous reste. Parce que si tu attends le Messie, tu vas attendre longtemps, hein, je vais te dire. Comme le disait un penseur juif, le Messie est fait pour ne pas venir. C'est provocateur, mais je te le dis. Hein, c'est absolument de ça qu'il s'agit. J'ai insisté tout à l'heure sur le caractère tout à fait hétérogène, un peu des sources juives concernant la nature des temps messianiques. Ce qu'on sait, c'est que ce sera un temps de justice, de restauration nationale du peuple juif sur sa terre, au point que pour certains, j'ose pas appeler ça des penseurs, pour certains, certaines personnes, certains illuminants en Israël, la reconquête de la Cisjordanie a signifié le début du temps messianique, il fallait reconstruire le temple et détruire la mosquée de Marc, tu vois le délire où ça peut emmener. Donc c'est pour ça que je dis que Messie, si on pousse au fond des choses, il est fait pour ne pas venir. Et pourquoi est-ce que je dis cette idée provocatrice? Parce que tout simplement, le Talmud fourmille des conditions de venue des temps messianiques. Alors parfois, le Talmud évoque une époque où il n'y aura que des guerres, ou une époque où il n'y aura que la paix, où tout le monde sera réconcilié, une époque où les hommes naîtront avec des têtes de chien, une époque, et c'est encore plus difficile, où les Juifs enfin respecteront deux Shabbats de suite. C'est impossible. Impossible. Voilà. Donc, c'est les conditions qui sont mises montrent quand même tout à fait bien qu'on est dans une promesse, mais dans un cheminement, dans un mouvement qui est impulsé. En fin de compte, le messianisme, c'est un mouvement. C'est un mouvement de questionnement d'abord et un mouvement d'engagement. Parce que c'est tout simplement la seule solution. Pourquoi est-ce que les gens comme les penseurs allemands ont largement rebondi sur la théorie lourianique de la création du monde, cette notion du retrait de Dieu, de rétraction de Dieu en lui-même qui permet l'expression de monde, qui est tout simplement l'affirmation de la création d'un être libre. Et lorsqu'on lit bien, avec les bonnes lunettes, avec les yeux contemporains, le texte de la Genèse, et en particulier, je le disais lundi soir à Bible Ensemble, prenez par exemple le cas de ce que vous appelez, vous chrétiens, la faute, le péché originel. Dans le texte hébraïque, il n'y a jamais eu de faute, jamais eu de péché originel. Il y a eu tout simplement recréation successive, et il y a un processus d'humanisation de l'homme. L'acquisition d'une sexualité différenciée, et il faut le rappeler par les temps qui courent, hein, je vous le signale, est tout simplement un processus d'humanisation. Découvrir pour les premières créatures qu'elles sont hommes et femmes, c'est l'occasion non seulement d'être sous le regard de l'autre, prise de responsabilité, acceptation de la différence, et c'est la première fois qu'on peut faire une place à l'autre. Donc si on relit ce texte comme une recréation permanente, une succession de Genèse, on s'aperçoit qu'il y a un processus d'optimisation. Un peu. Alors je reviens un peu à ce que disait Lauria, c'est le retrait de Liebeck. L'homme n'est libre. Et comme je le citais lundi soir à Vivre Ensemble, il a deux solutions, hein, devant la falaise. Ou il grimpe à main nue, ou il utilise la Via Ferrata. C'est la Torah, quoi. C'est les 613 mitzvot. Voilà. C'est quand même plus facile de grimper Par contre, il est absolument libre de grimper à main nue. Ça s'appelle quoi, ce problème de choix, ce problème de liberté, qui déduit largement de la création laurianique et que reprennent les penseurs allemands. Et bien, on débouche sur un thème qui est extrêmement fort, qui a été introduit par Buber et Rosenzweig, qui est celui d'une sécurité radicale. C'est-à-dire, en fait, la liberté inclut l'insécurité et inclut également un questionnement sans réponse sur les fins ultimes de la création de l'homme. On ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas quelle sera la fin. Comme le dit très bien Nachman de Breslav, Teiku, c'est la croisée de la fin, et à la fin, quand je serai mort, quand je rencontrerai, je lui poserai la question. Pour l'instant, je vis sans la réponse. C'est ce qu'on fait. L'utopie, c'est une façon de vivre sans la réponse. Et c'est pour ça qu'elle sort. Pourquoi j'ai cité tous ces gens de façon un peu abusive? Pourquoi je pense que, quand même, le questionnement de savoir pourquoi il y a tant de prix Nobel juifs, pourquoi il y a tant de juifs investis dans ces domaines de la recherche, partout, y compris dans le pire, comme la bombe atomique. Hein, je veux dire que c'est parce que, tout simplement, ce sont des expansions de la pensée humaine à la recherche des nouvelles terres incognitées et des réponses à la question. On est dans cette quête-là. Et c'est pour ça que je disais que là, vivre, c'est faire fabriquer de l'utopie. Je citais cette phrase de Méchoni qui disait que l'utopie du juif, c'est le juif lui-même. C'est en lui qui a la fabrique d'utopie. Et le jour où il ne fera plus d'utopie, il ne sera plus juif. Il ne sera plus homme du tout d'ailleurs. Voilà pour répondre à ta question. Donc il faut admettre cette idée d'insécurité radicale. Ce que Pessoa appelait l'intranquillité. Ce concept d'intranquillité. Parce qu'elle est consubstantielle de la condition humaine. Oui, quand on a dit ça, on ne saute pas par la fenêtre, hein, surtout qu'on est, on risque pas de se faire mal dans la neige, mais je veux dire qu'on en tire les conséquences. Les conséquences, ce qu'il faut vivre. Qu'est-ce que c'est que le jour du Shabbat? Le jour du Shabbat, ce n'est pas la première loi sociale. Hein. Dieu, ce n'est pas un leader syndicaliste, il n'a pas créé le Shabbat pour qu'on se repose de la dure semaine de labeur. Il a accepter l'idée qu'on bosse 6 jours par semaine pour se nourrir, mais enfin, le jour du Shabbat, trouve la place le questionnement ontologique, en fin de compte. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais faire de ma peau? Est-ce que c'est pas le moment de parler à mes enfants, parler à ma femme? Est-ce que c'est le moment de retrouver un tout petit peu l'échange avec les autres? C'est de ça qu'il s'agit. On arrête le temps, artificiellement, pour donner du temps au temps. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le rapport absolument organique de l'histoire juive avec le temps, et non pas avec les lieux, non pas avec l'espace. Quand je dis ça dans ma communauté, je choque terriblement les sionistes à tout craint, qui sont absolument persuadés que posséder la terre, ça suffit, et que la ville, c'est un cadastre. On était là, c'est à nous. Rien à voir, la terre d'Israël, sans l'utopie, sans l'espérance, sans la vision, et Dieu sait que les dirigeants israéliens en manquent singulièrement actuellement, la terre d'Israël sans la vision, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est la terre sans la promesse. Voilà. Ça emmène très loin, ce Lisa. Mais donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est d'accepter que ce texte, cette Bible, elle pose beaucoup de questions, elle apporte très peu de réponses. Mais elle est absolument le paradigme de la condition humaine. Il faut qu'on vive. Qu'on vive du mieux pour nous et pour les autres. Donc, encore une fois, ou on craint pas la vie à faire là, ou on craint pas main nue, on a le droit de faire les deux, mais on accepte cette idée de l'insécurité radicale. De cette part de hasard extraordinaire, cette apparente absurdité du monde, qui n'est absurdité que parce qu'on ne sait pas le décrypter, en fin de compte. Ce sont les limites de la rationalité, les limites de la pensée humaine. Et je ne sais pas ce qu'en pense notre philosophe, là, sur ce problème d'insécurité, ce concept d'insécurité. Je ne savais pas bien si j'allais intervenir, mais je crois que c'est fait. L'idée d'insécurité, je suis parfaitement d'accord. Là où je voulais intervenir, sans doute, c'était sur la notion de temps. Il y a beaucoup de neige, je n'ai pas mis de contact, je crois que je vais déraper, mais tant pis, je me lance. Je n'ai jamais été convaincu par la thèse de l'échelle. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse définir le peuple juif exclusivement par le rapport au temps, parce que ça me semble terriblement réducteur. Je crois qu'à la limite, il faut le temps et l'espace, je m'excuse de dire des banalités, mais il semble qu'il faut dire les deux. Alors, bon, par rapport au Shabbat, par exemple, certes, c'est donner le temps au temps, mais parmi les 39 travaux interdits le Shabbat, le dernier et le plus important, c'est la question du transfert. Le passage d'un domaine à un autre. Or ça n'existe que parce que l'espace est défini. Et donc, le Shabbat ou le temps ne peuvent exister, à mon sens, que si on a une notion exacte du lieu où on se trouve. Alors, quitte à passer pour un sioniste obtus, il me semble que la plupart des Juifs se réjouissent de la restauration de l'État d'Israël, c'est bien parce que le lieu a été investi physiquement, donc l'espace il ne compte pas pour rien. Et même d'un point de vue kabbaliste, pour terminer, l'un des noms de Dieu, c'est quand même Amakom, le lieu. Donc on ne peut pas, à mon avis, congédier l'espace. Donc je te laisse te dépêcher avec ça. Ça fait partie un peu de la, comment dirais-je, du pluralisme des opinions à cet égard. Alors je vais te répondre par une histoire juive. C'est l'histoire d'un juif de Chambéry qui part à Paris et qui quand il revient Shabbat suivant à la synagogue, ses copains lui disent « Alors c'était bien Paris ? Oh Paris, c'est extraordinaire !» J'ai rencontré un juif qui ne parle que de sionisme et de restauration de la nation juive sur sa terre. J'ai rencontré un juif qui ne parle que de communisme et de révolution internationale. J'ai rencontré un juif qui ne parle que de rendre les outils de production aux ouvriers. Un marxisme absolument terrible. J'ai rencontré un juif religieux qui ne parle que du retour complet à la religion dans ses termes les plus étroits. J'ai rencontré un type qui est complètement athée et qui ne parle que de faire du fric et du libéralisme sauvage. J'ai rencontré un juif qui ne parle que de littérature et qui considère que la principale expression de la parole de Dieu se trouve dans l'expression artistique. Et ses copains à la synagogue disent « Mais c'est normal, à Paris, il y a tellement de juifs. » « Non, 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 c'est le même. »
Il y a aussi les psys, hein, je les ai oubliés. À propos du temps et de l'espace, il y a quand même ce très beau livre du grand rabbin Safran, Israël dans le temps et dans l'espace. Tu peux nous dire quelque chose là-dessus ?
Moi, j'avoue que je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai lu la histoire du temps de Abraham Joshua. Que j'ai beaucoup apprécié, et un livre que j'apprécie beaucoup pour son titre provocateur, c'est Philosophie du judaïsme, en fin de compte, parce que c'est, comme tu le sais, c'est une des grandes dadas, c'est les confluences des philosophies et des judaïsmes, et ça m'intéresse beaucoup. Hein. Bon, ce titre provocateur m'intéresse, hein, surtout à une époque où on oppose très facilement la pensée philosophique avec la pensée religieuse. Par contre, de Safran, je n'ai lu que son extraordinaire petit bouquin sur l'éthique juive. Parce que comme je m'investis beaucoup en particulier dans une, un comité d'éthique pour la principale clinique de Chambéry, donc je vais à ces sources qui me semblent absolument fondamentales, et vous participez tous au débat actuel sur plein de choses. Et Dieu sait qu'il faudrait faire ce que disait Stendhal, c'est studiate la mathématique. Il faudrait étudier un peu avant de parler quand même.
Merci. Albert, je voudrais, comme d'habitude, te remercier parce que, comme d'habitude, tu nous as réjouis. Donc, je vais mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Ce jour un peu les mêmes, mais c'est important de les redire. Puis je les redis, j'essaie de les redire un peu différemment. La clarté, d'abord. Un travail parfaitement structuré qui favorise vraiment l'intériorisation. C'est tellement structuré qu'on arrive bien à faire descendre en nous-mêmes. Cette rigueur que j'apprécie chez toi, cet esprit critique qui a manifesté vis-à-vis des dirigeants israéliens, vis-à-vis de toi-même, cette distance, dire qu'un juif dise pas toujours le temps de prier, de mettre des... c'est... ça fait du bien, disons. On voit qu'on n'est pas les seuls à pas toujours prendre ou trouver le temps pour prier. Un esprit critique n'est jamais nihiliste, qui est toujours formulé dans le but d'édifier. Et ça, chaque fois je retrouve ça, cette volonté d'édification, qui n'est jamais étriquée, jamais superficielle. On te retrouve toujours comme sur un sommet pour essayer de prendre à la fois de la distance, de mettre de la profondeur, et puis de nous offrir le panorama le plus large possible. Et puis, je voudrais dire deux choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. La première chose, c'est tu as beaucoup cité le grand rabbin Jules Bernheim, et puis beaucoup, encore plus, cité Franz Rosenberg. Alors, je finirai par Rosenberg, mais je vais dire tout de suite que l'étoile de la rédemption, je l'ai achetée et je n'ai jamais pu rentrer dedans. Je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Mais je vais d'abord venir sur à propos du grand rabbin Jules Bernheim, parce qu'en t'écoutant, j'ai retrouvé vraiment une proximité extraordinaire avec ce que lui dit du messianisme. Et je vais me permettre, c'est très court, ce qu'il dit, et je pense que chacune et chacun va retrouver ce que tu as dit. Ce sont d'autres mots, mais on retrouve vraiment. Lui dit, le messianisme, ça n'est pas conçu comme l'attente d'une apothéose qui se produirait au terme d'un temps linéaire et continu, mais comme une possibilité donnée à chaque moment du temps de l'avènement du nouveau. Pour les juifs, chaque seconde devient alors la porte étroite par laquelle peut entrer le Messie. Donc, merci beaucoup, parce que j'ai vraiment retrouvé cette tonalité. Et puis, pour Franz Rosenberg, j'écorche le nom, j'arrive jamais à le prononcer comme il faut, Franz, oui, très heureux que tu l'aies cité, parce que, à mes yeux, c'est quelqu'un qui cimente le groupe de l'amitié judéo-chrétienne. Pourquoi ? C'est quelqu'un qui a décrit le juif et le chrétien comme deux figures d'humanité irréductibles l'une à l'autre. Il faut que je retrouve ma note parce que je ne connais pas par cœur. Excusez-moi. Et donc, irréductibles l'une à l'autre, mais toutes les deux indispensables. Et il ajoutait, le juif et le chrétien travaillent, on devrait dire, devraient travailler à la mise, à la main d'œuvre de Dieu. Et j'ai tout à fait retrouvé ces deux tonalités dans ce que tu nous as dit ce soir. Merci beaucoup.
Tu es quand même très 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 généreux là, je suis accablé de compliments là.
C'était peut-être dans nos amis et parmi nos amis chrétiens, en savant justement d'être le Messie.
C'est concernant la vallée de la faillite du siècle des Lumières. Je pense, il me semble, enfin, je ne connais pas assez l'histoire du peuple juif, mais il y a eu certainement des philosophes ou qui étaient aussi un petit peu des promoteurs ou des porteurs de ce siècle des Lumières. Quel était est-ce que c'est seulement les événements qui ont fait qu'il y a eu ce décrochage dont on parlait au Xe siècle, ou finalement on s'est orienté différemment?
Extrêmement intéressant. Comme moi, elle m'intéresse énormément. Alors, c'est vrai que le mouvement des Lumières a affecté, bien évidemment, la pensée juive. Et il ne peut pas en être autrement. Hein. Dans tous les rendez-vous de la philosophie, il y a eu des juifs. Hein. Philon, le juif, était néoplatonicien. Maïmonide est passé du néoplatonisme à la réconciliation du judaïsme avec Aristote, et quand même Moïse Mendelssohn, celui qui a été décrit par Lessing dans sa très belle pièce sous le nom de Nathan le Sage, Moïse Mendelssohn a tenté, lui, de réconcilier la pensée juive avec la philosophie kantienne. C'est tout à fait évident, on ne peut pas. Tout se faisait en Allemagne. Et on pouvait pas, c'était absolument incontournable à cette époque-là. Et cette adhésion du judaïsme aux Lumières, elle s'est faite. Il y a beaucoup d'autres philosophes du 19e qui ont complètement adhéré aux Lumières en faisant une espèce de transaction gagnant-gagnant avec ce qu'ils pensaient du judaïsme. Et on ne peut absolument pas les en blâmer. L'échec de la philosophie des Lumières, on le voit d'ailleurs maintenant dans cette critique extrêmement forte qui est faite après l'année Rousseau sur la pensée de Rousseau. On le voit aussi sur l'analyse historique qui est faite sur les conséquences au niveau des crises de nationalité, sur les guerres ultérieures, sur les totalitarismes qui vont apparaître. On s'aperçoit que quelque part il y a une responsabilité de ce mouvement dans ces événements d'histoire absolument tragiques. J'approfondis ma pensée, parce que je fais des observations, maintenant je dis ce que je pense. Moi je pense que la rupture entre ce groupe de penseurs, ces fameux témoins du futur dont parle Bouretz, c'est plus un retour avec des prémices de foi ou non. Pour beaucoup de ces penseurs n'étaient absolument pas pratiquants. Mais ils sont tous partis du texte. Les uns ils sont partis de la structure du texte. Y compris Anna Arendt par exemple, d'autres sont partis, ou Léo Strauss, d'autres sont partis de la mystique, comme Scholem par exemple. Ils sont partis du contenu, il y avait le contenant et le contenu, et pour tous ces gens c'était valable. Alors quelle est la caractéristique? C'est l'idée même qui me semble fondamentale dans la pensée contemporaine, qu'il n'y a pas de tabula rasa. On ne peut pas faire abstraction du passé. Nous, il faut, comment dirais-je, tirer du passé ce qui nous intéresse et avancer à l'aide de ce passé. Et ça, c'est la grande leçon que ces gens ont tirée, même n'étant pas pratiquants, de la fréquentation des textes dans la tradition juive. C'est de l'interprétation. Maïmonide le disait, je l'ai cité tout à l'heure, la porte de l'interprétation n'est jamais close. Et c'est ce que ces penseurs allemands ont compris. En fin de compte, il fallait repartir des fondamentaux et se dire qu'il y avait quelque chose à en tirer pour avancer la pensée. Donc cesser de dire du passé faisant table rase. C'est de ça qu'il s'agit. Ces gens renouent une chaîne que les Lumières ont rompue. Parce que la grande promesse et la grande escroquerie des révolutions et de les Lumières, c'est de dire, c'est en cela qu'on peut les considérer comme un néo-messianisme. Eh bien, avant nous, laissez tomber. C'est nous qui commençons, c'est nous les nouveaux. Et on va reconstruire quelque chose de nouveau. Or, c'est pas vrai. On peut pas faire tabula rasa. C'est pas possible. Il y a des tas de choses qui vous... D'abord, c'est pas forcément nécessaire. Et cette notion du lien, cette notion, j'allais dire, d'une généalogie intellectuelle, d'une filiation intellectuelle, je crois qu'on y revient, parce que tout simplement, être adulte, c'est assumer ses influences. C'est assumer ses maîtres, même si on va s'opposer, créer quelque chose de tout à fait nouveau. Cette filiation, c'est quelque chose qui est très très forte dans le judaïsme, cette notion du respect des maîtres, même si on n'est absolument pas d'accord avec eux. Dans la mesure où tous les gens qui sont dans le mouvement continuent à avancer avec nous. Voilà la réponse que je voulais vous apporter à cet égard. Et on est bien dans cette notion du chemin. On est bien dans le lech lecha. C'est en chemin qu'on va vers soi. C'est pour ça qu'au fond, l'important c'est le chemin, c'est pas le but ultime. C'est pour ça que j'avais ce propos provocateur tout à l'heure. Je sais pas de qui est cette phrase, tu dois le savoir toi, le Messie est fait pour ne pas venir. C'est quelque chose qui au début m'avait choqué, mais maintenant que je prends avec beaucoup d'humour. Mais c'est vraiment une question qui me préoccupe beaucoup. Et je vous ai rappelé tout à l'heure que moi je ne fais aucune opposition entre les pensées philosophiques et la tradition rabbinique. Et je considère qu'effectivement, une partie de la même manière que les maîtres du Talmud faisaient des piyutim, étaient poètes par instant, quand ils s'emmerdaient à étudier les textes, ben ils faisaient de la poésie, et ils faisaient de la musique ou des choses comme cela. De la même manière, ils faisaient de la philosophie. Et ils étaient parfaitement... ils avaient les maîtres. Je veux dire que toute une partie de la pensée juive médiévale est inspirée par les philosophes arabes, par El-Farabi en particulier. Les relations, même si elles n'ont pas été personnelles, entre Maïmonide et les penseurs arabes de son époque, sont tout à fait réelles. Il y avait des liens intellectuels entre ces gens-là. On célèbre beaucoup l'Espagne des trois religions. C'est un peu un mythe, hein. C'est un peu un mythe. Mais il y a eu effectivement une époque où la pensée était libérée et qu'elle a pris son essor aussi bien chez les penseurs musulmans que chez les penseurs juifs, que chez les penseurs chrétiens. C'est pas par hasard que lors de la révolte des Almorades, parce que des intégristes, il y en avait déjà à cette époque-là, ils ont tous été mis dans le même sac. Hein. Les Almorades ont massacré aussi bien les intellectuels musulmans que les chrétiens, que les juifs. Hein. Et ils ont brûlé les bibliothèques. Vous voyez que Hitler n'a rien inventé.
Et à propos du chemin dont tu parles, j'ouvre, c'était pas ça que je cherchais, mais je trouve de Tzvi Kolitz qui a écrit le livre de Yossel Rakover qui s'adressait à Dieu dans le ghetto de Varsovie, qui était un livre absolument, c'est Job multiplié par X, c'est X, absolument extraordinaire et terrifiant. Mais il dit, et réel, je crois qu'être juif signifie être un lutteur, nager éternellement contre le bouillonnant courant humain. C'est un peu ce que tu dis. C'est encore cité dans Marquin Lavoisier. Et puis le chemin aussi. Ne demande ton chemin à personne parce qu'il pourrait t'indiquer. Puis à ce moment-là, tu vas te tromper forcément puisque tu ne prendras pas. Enfin, ça peut. Ouais.
C'est une très belle phrase de Brassard avec quelqu'un. Demander son chemin et il a répondu « Je ne te dirai jamais le bon chemin parce que tu pourrais ne pas te perdre. » Tu pourrais ne pas te perdre. Et moi, je trouve ça très, 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 très beau. Il y a la même histoire qu'on raconte, que mon père racontait, qui raconte l'histoire du jésuite qui demande son chemin à un rabbin. Le rabbin lui dit « Vous n'allez jamais trouver, c'est tout droit. »
C'est un jésuite qui était un peu juif alors, hein, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, questions? Oui?
Ce qui est une réflexion sur le Messie d'une façon générale, c'est j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe, parce que Mashiach en hébreu, ça veut dire que c'est celui qui a été oint, c'est vrai, mais c'est aussi celui qui se prosterne, c'est-à-dire qui se penche, qui se soumet, qui se baisse la tête, hein, contrairement aux juifs à l'Ukraine, et qui donc finalement se plie à la volonté de l'autre. Et qu'on peut considérer comme Dieu, bien sûr. Hein. Et par ailleurs, on parle aussi que moment où les messies viennent, il y a des révoltes, la révolte de Bar Corba, etc. Donc il y a à la fois un sentiment de révolte et de soumission, qui s'interprètent, qui s'interpénètrent, et on ne sait plus où est le vrai Messie.
Hétérogène, à la fois des conditions de vie, de sa nature. Moi, comment je lis cette remarque que tu fais, extrêmement, il faut toujours revenir au sens des mots en hébreu. Je crois que dans la tradition juive, le Messie n'est pas Dieu. C'est une des raisons qui nous sépare encore des chrétiens. Messie n'est pas Dieu. C'est un envoyé, c'est un chaliar, c'est quelqu'un qui est envoyé pour proposer un chemin. C'est un roi temporel, c'est un roi spirituel, également par instant, mais c'est surtout un homme de justice, c'est un homme qui va réorganiser la vie juive, qui va ramener les juifs à une stricte observance de la... qui va les temps messianiques, comme on le dit dans le rituel de Soukhot, c'est le moment où on va rétablir la soukhat David Anophelet, la maison de David qui est brisée. On va la redresser, cette maison. C'est ça qu'il s'agit. C'est quelque chose qui est très extrêmement pratique. Alors pourquoi il est soumis? Il est soumis parce que tout simplement, il n'est pas Dieu. Et se soumettre, c'est se soumettre un peu aux attentes un peu du Créateur. Bon, ça c'est une explication qu'on peut donner. Maintenant, le fait que dans des circonstances, je l'ai dit, et Gershom Scholem insiste là-dessus, la mystique juive, c'est une échappée vers le suprarationnel qui est créé par des conditions insupportables. Alors comment on peut, si on a quelques références religieuses, en appeler à la venue immédiate du Messie, parce que ça va trop mal, il faut absolument qu'il vienne, il faut absolument qu'il fasse quelque chose, ou alors il faut emprunter toutes ces voies qui est également de l'utopie, mais de façon extrêmement quotidienne, qui sont tout simplement des voies de résilience, c'est-à-dire la littérature sous la cendre pendant les persécutions, les opéras ou la musique jouée dans les camps. Je veux dire, chaque expression un peu de la pensée humaine, de la dignité humaine et de sa créativité dans des conditions difficiles représente aussi une voie de survie, pas uniquement l'attente du Messie. Moi, je crois que chaque expression de l'humanité dans des conditions difficiles, ça, c'est une injection d'utopie dans le quotidien. C'est-à-dire que l'affirmation qu'il peut y avoir autre chose que l'océan de misère et de cruauté dans lequel on nage. Quoi. Voilà. Il doit y avoir autre chose. Il faut impérativement qu'il y ait autre chose. À ce propos, ça me rappelle l'histoire de ce juif du sentier qui fait de la montagne et qui tombe dans une crevasse. Alors il appelle au secours, au secours, au secours. Et puis il entend une voix du ciel qui lui dit « Moshé, Moshé, c'est ton créateur qui te parle. Moshé, lâche, rejoins-moi. Il y a longtemps que je l'ai eu sur toi. Je sais que tu es un bon juif. Rejoins-moi, Moshé, lâche, lâche. » Et Moshé qui crie « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?»
Reste-t-on sur cette histoire ? Peine de vie, finalement, hein. Y a-t-il d'autres réflexions? Pensez-vous que... voilà. Si, vous voulez... Ah, voilà. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la Genèse. C'est une nouvelle recréation, des recréations successives avec humanisation de l'homme, la femme, être sous le regard de l'autre, etc. Alors, je ne sais pas si j'ose beaucoup poser des questions, mais ce qui se passe actuellement pour le mariage pour tous, là, c'est pareil ou...
On est en plein dedans. Ça, moi, j'ai participé la semaine dernière à une réunion juridique à Chambéry en tant qu'expert, en tant que pédiatre sur la question de la nouvelle loi proposée, là, cette loi proposée sur, pour le mariage pour tous. Il est bien évident que je suis intervenu là-bas en tant qu'expert médical, mais pas du tout en tant que juif, que les choses soient dites. Par ailleurs, il y a belle lurette qu'on a fait des progrès par rapport à l'existence réelle et au vivre avec l'homosexualité dans la tradition juive. Dans le texte biblique, c'est l'abomination des abominations, mais pour une raison très simple, qui s'explique de façon absolument, j'allais dire, sociologique. C'est-à-dire que dans un peuple qui est voué à l'endogamie, qui ne pratique pas le prosélytisme, toute la politique liée au sexe est nataliste. C'est évident. C'est évident. Donc si on oublie le contexte sociologique dans lequel, sur des centaines et des milliers d'années, le texte a été écrit, on ne comprend rien à l'hostilité frontale du judaïsme à l'homosexualité. Abomination des abominations. Par ailleurs, si les interdits sont rappelés si souvent, c'est que la pratique a existé de tout temps. Ce qui veut dire que, et puis, je ne vais pas aller chercher l'exemple archi-rebattu de David et Jonathan, mais il y a quand même beaucoup de liaisons dans la Bible qui sont des liaisons qui peuvent prêter à conséquence. Donc, je veux dire, moi je suis très à l'aise avec ça. Il y a, au fond, les mentalités ont beaucoup évolué, aux États-Unis, elles ont encore plus évolué ici par rapport au désir homosexuel et aux couples homosexuels. Bon, je crois que les questions, moi, qui me travaillent, qui je trouve douloureuses dans ce projet, mal ficelé, mal préparé, mal expliqué et si peu débattu de façon démocratique, ils sont de deux ordres. Le premier, effectivement, ça concerne le pédiatre, c'est la question de la reconnaissance de ses ascendants, c'est le problème de la généalogie, c'est le problème de la filiation, qui sont absolument centraux dans le judaïsme. Et qui, pour moi qui suis un rescapé de la guerre, est encore plus aigu quand vous survivez d'une guerre où toute votre famille a disparu. Je veux dire que ce problème de la filiation, pas de grand-père, pas de grands-parents, pas d'oncle, pas de tante, pas de cousin, ou alors quand vous connaissez leur histoire, vous en avez des frissons dans le dos, je veux dire que vous ne pouvez être attaché qu'à cette filiation. Moi, c'est la même chose qui me fait, et j'ai choqué quelques-uns d'entre vous, être totalement hostile, à titre personnel, à la crémation. Je veux dire qu'il y a tellement de juifs qui ont été brûlés, moi je ne peux pas, dans ma sensibilité personnelle, accepter la crémation comme une façon, je ne m'intéresse pas du tout, c'est pas le problème de ce soir là, au fait de ressusciter à la fin des temps. Je veux dire simplement qu'il y a des choses qui me heurtent de façon profonde, et c'est mon histoire qui me fait réagir à cette espèce de disparition de l'identification des ascendants. Ça, c'est une première chose. Le problème des enfants est autre. Mais, deuxième problématique, alors là, qui me heurte au plan de l'éthique, toute la pensée juive, elle se fait vers la différenciation. On part de l'indifférencié et on va vers le différencié. Il faut lire absolument le magnifique texte de Bernheim sur la cacheroute, où il montre bien que la cacheroute, outre le fait d'être la représentation religieuse juive et ensuite musulmane, d'une évolution macrobiotique qui est liée à la sédentarisation des nomades et à l'impression de l'agriculture des cités-états en Mésopotamie, voici 10 ou 12 000 ans, outre cela, elle est aussi la recherche d'une alimentation différenciée, la plus traçable qui soit. Et Bernheim, il faut le lire, parce qu'il est absolument démonstratif à cet égard. Donc tout le judaïsme, c'est de la différenciation. Or, on va revendiquer comme évolution positive l'indifférenciation. C'est-à-dire qu'on va aller contre la différence naturelle. Ça, c'est quelque chose, moi, je n'ai pas la solution, mais ça me heurte profondément, là, dans ma pensée personnelle, éthique et philosophique. La deuxième chose qui me heurte terriblement, c'est le problème, et là encore, Bernheim en a beaucoup traité, de la satisfaction du désir. C'est toute la thématique de Babel. Tout le judaïsme repose sur la perte. Il y a abandonner quelque chose, pour créer un espace pour l'autre, pour l'autre individu, pour sa femme, pour créer un espace de parole. On se retire un peu, comme Dieu l'a fait pour nous créer. On se retire un peu pour créer. On crée un manque. Or, une civilisation où le désir devient premier, et la satisfaction de ce désir devient premier, est totalement à l'opposé des vertus de la pensée juive, qui est faite justement de la non-satisfaction, revendiquée comme sommet du processus d'humiliation. Accepter la perte, accepter l'interdit, accepter cette espèce d'espace où je peux rencontrer l'autre. Se mettre au centre du monde, réclamer immédiatement l'acceptation de son désir, c'est ne pas faire place aux autres. Et ce qui me gêne dans ce projet, c'est qu'on a totalement fait de l'enfant un objet et non pas un sujet. Voilà, c'est ça là, qui me gêne terriblement. On n'a pas parlé de l'enfant. On le présente comme un droit. On dit un droit à l'enfant, on ne parle pas du droit de l'enfant. Or, pour la tradition juive, et c'est pour ça que la filiation est importante, Ben, c'est la même racine que Livnot, que construire. L'enfant construit. Il se construit, mais il vous construit. Pour la tradition juive, on ne devient homme que quand on est père. L'enfant vous construit. L'enfant vous apprend des choses sur vous-même. Et j'adore cette phrase du Talmud où un maître disait, à une question sur ses influences, il disait: de mes maîtres, j'ai appris un peu. De mes collègues, j'ai appris pas mal. Mais l'essentiel, je l'ai appris des enfants. Et moi, je le vis dans ma pratique quotidienne, tous les jours. Tous les jours, j'en apprends sur moi-même des enfants que je fréquente. Je cite cette magnifique remarque de mon maître Korczak. Vous savez, c'est ce pédopsychiatre hongrois qui accompagne les enfants dont il s'occupait à Auschwitz. Un jour, dans un salon de Budapest, une dame lui dit: docteur, docteur, ça doit être terrible de toute la journée vous pencher pour parler à l'oreille des enfants et écouter leurs réponses. Il lui dit: oui, madame, c'est très difficile de me hausser sur la pointe de mes pieds pour arriver à la hauteur de leur imaginaire. Et je trouve que c'est ça, la tradition juive. C'est d'accepter un enfant comme un être nouveau qui a des droits sur vous, sur lesquels on n'a aucun droit. On a un seul devoir, c'est de lui faire la place qu'il mérite et que sa personne mérite. C'est une autre personne qui naît. Et c'est aussi notre chance d'apprendre qui on est. Voilà. Et c'est ce qui est totalement oublié dans ce projet. C'est ce côté, cette dimension éthique. Parce que dans la filiation, il n'y a pas le fait qu'on appelle les gens premiers parents, deuxième parent, papa et maman disparaissent. Ça c'est grotesque, hein. Ça, c'est pour les humoristes. Il y a cette idée-là que ce système qui nous est proposé ne fait pas la place à l'enfant. Or, c'est exactement ce que René Char disait de l'art. Il disait: l'art, pour l'art, il ne faut pas faire une petite place. Pour l'art, il faut toute la place. Moi, je paraphrase. Je dis: pour l'enfant, il faut toute la place.
Je crois que pour notre ami Albert, c'est une belle conclusion même, magnifique, je pense. Parce que je vais passer la parole au père Barcellini qui peut-être par une suite... Voilà, c'est cela, c'est pour ça.
Bon, je tiens à signaler, parce que c'est important, parce que dans ses vœux à la Curie romaine, Benoît XVI cite abondamment le rabbin, le grand rabbin Gilles Bernheim. Et là, il pose la question fondamentale, un peu comme vous d'ailleurs: la mémoire de l'humanité. Et là, c'est une humanité qui risque de perdre la mémoire, qui risque d'être amnésique sur l'expérience de l'homme, sur la vie humaine. Et là, il insiste pour dire que maintenant, le dialogue interreligieux, c'est un devoir du religieux. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la personne humaine elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et le danger, c'est justement de perdre de vue le sens profond de la personne humaine. Alors, si bien qu'il cite beaucoup le grand rabbin Bernheim, qui d'ailleurs redonne aussi sur l'enfance que vous venez de dire exactement. Hein. Mais il veut dire par là que la foi en Dieu juifs, chrétiens, musulmans aussi, mais tous ceux qui croient en Dieu, c'est maintenant, doit devenir une lutte pour la dignité et la reconnaissance de l'homme. C'est-à-dire que ceux qui croient en Dieu doivent retrouver ce sens profond de l'être humain. Et là, il me semble que c'est un des aspects du dialogue interreligieux qui devient maintenant important. Parce que là, c'est l'avenir de l'homme qui est en jeu. D'ailleurs, la Benoît XVI parle de son inquiétude pour l'avenir de l'être humain. Et nous avons tous, à partir de notre foi, à préparer cet avenir de l'être humain qui est à l'encontre. Voilà, simplement.
Merci, Père Barthélemy.
Non, je ne peux qu'adhérer à ceci. Bien, j'ai entendu une critique assez insultante l'autre jour en regardant la télévision avec mon épouse, où les journalistes d'une table ronde disaient qu'au fond, l'idéologue de ce mouvement, c'est le rabbin Bernheim. Tout simplement parce qu'il avait su sortir, et c'est là son originalité, du débat strictement religieux contre la société laïque, pour aborder ce problème sur le plan strictement anthropologique et philosophique. Et je crois que c'est en cela qu'il a eu absolument raison de ne pas se présenter comme l'homme de parti, mais comme l'homme d'une pensée, est une pensée qui est une pensée universelle, religieuse et a-religieuse, et surtout de témoigner non pas d'affirmation mais d'inquiétude. Et je crois que c'est absolument de cela qu'il s'agit. J'en terminerai en disant que ce combat-là, c'est un peu le même combat qu'on doit faire contre effectivement la société de consommation, le libéralisme sauvage. En fin de compte, là encore, c'est Babel qui revient, l'homme se met au centre du monde, la consommation devient le nouveau Dieu, la satisfaction du désir immédiat devient le nouveau Dieu. Vous savez, moi je raconte toujours que si Sodome a été détruite, c'est absolument pas en fonction des mœurs de ces gens-là. Ça n'a rien à voir. Sodome a été détruite, et le Talmud l'explique très bien, parce que c'est des gens qui appliquaient la loi du libéralisme. Et le Talmud dit, ils appliquaient la loi qui était ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Il n'y avait aucune place pour l'autre. Donc ce qui veut, et le Talmud dit, c'est la loi de Sodome. La loi de Sodome, c'est le libéralisme. Et je crois que ce sont des sociétés qui portent en elles le germe de leur propre destruction. C'est un peu ce que décrivait Lévinas en Totalité et Infini. Je veux dire qu'il assimile un peu ces types de dérives à la totalité. Et pour lui, effectivement, la pensée philosophique et la pensée juive en particulier sont des pensées qui nous conduisent vers l'infini et non pas vers la totalité.
Merci, merci Albert, et on va te souhaiter un bon retour avec les amis. J'ai une seule annonce à faire, mais si tu veux y aller, peut-être pour pas... c'est une annonce intéressante, c'est un voyage qui va se faire en Israël et qui se nommera aux sources de la promesse, puisqu'il y aura un mémorial dédié au cardinal Lustiger qui va être fait poser à Abou Ghosh dans le monastère, près du monastère, dans les jardins du monastère d'Abou Ghosh. Alors ce voyage est organisé par le père des Bois et bien d'autres personnes autour de lui, dont le cardinal André 23 qui sera présent également. Tous ceux qui souhaitent y aller, l'Amitié judéo-chrétienne fait partie des organisateurs, l'Amitié judéo-chrétienne de France. C'est du 7 au 14 mars. Vous le trouverez sur internet, vous le trouvez sur le site de la JCF avec des détails. Mais ce que surtout j'ai vu, c'est le prix extrêmement intéressant sur 8 jours de voyage, énormément de tourisme intelligent, bien sûr, hein, de conférences, les hôtels, l'avion, les repas, une somme de 1 350 €, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un voyage de cette qualité et pour un voyage tout court, donc pour 8 jours. Qui sera de Tel Aviv à Jérusalem en passant par le Negev, Jérusalem évidemment, Masada. Il y aura tous les renseignements. Je voulais vous donner l'information parce que si certains ont envie de voyager, aller en Israël avec le groupe et donc des conférenciers et forcément une connaissance au niveau biblique aussi, et interreligieuse, bien sûr, hein, juif et chrétien. Voilà, je voulais vous donner cette information ce soir. Vous souhaitez, alors vous dire aussi une autre chose importante pour notre prochain rendez-vous qui va être, je crois, le 12 ou le 13 mars. Souvenez-vous, le 12, que c'était prévu être le pasteur Jean-Jacques Maison. Alors, ça, il ne pourra pas venir, mais il se trouve souffrant, mais ça va être un professeur de théologie de Genève, le professeur Chalamet, qui a l'air tout à fait charmant dans le sens où, d'une part, c'est pas pour son charme, parce que j'ai entendu sa voix au téléphone, c'est tout, mais l'envie de nous connaître, l'envie, bien sûr, parce que il va nous parler de la théologie d'espérance de Moffman, qu'il est en train de faire travailler à ses étudiants à Genève et à Lausanne. Il est en plein dedans. Donc voilà, c'est notre thème pour notre prochain rendez-vous. Donc merci d'être présent, de le dire autour de vous. Et je crois que je n'ai rien oublié de vous dire au revoir et à très bientôt. N'hésitez pas à prendre des documents qui sont là, l'amitié, si qu'est-ce que vous trouvez.